Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous et mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute. Mais surtout, partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Vous avez désormais la possibilité de faire un don pour soutenir Milkshaker et par la même occasion soutenir une association. En effet, 50% des dons seront reversés à des associations qui en ont besoin. Ce mois-ci et jusqu'au 1er juillet 2021, Milkshaker commence très simplement par soutenir IJ, une association pour laquelle je suis bénévole en tant qu'ostéopathe, fondée par Catherine Ribus et qui a pour vocation de prodiguer des soins ostéopathiques gratuits pour les femmes et les enfants. J'y tiens tout particulièrement car c'est cette association qui m'a permis de connaître Catherine et c'est par ce biais que nous nous sommes découvertes et lancées dans l'aventure folle de créer en région parisienne un centre de soins pour les femmes et les enfants. Pour plus d'informations et pour faire un don, rendez-vous donc sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, rubrique Milkshaker. Et comme il se dit couramment que c'est avec de petits ruisseaux qu'on fait de grandes rivières, je vous précise qu'il n'y a pas de petits dons. Et maintenant, place à l'épisode. Nous retrouvons aujourd'hui Catherine Fontenelle, vous l'avez déjà entendue dans l'épisode 9 de Milkshaker où elle nous parlait des démarrages d'allaitement et de l'accompagnement de l'allaitement au sens large. Aujourd'hui, on vous parle de la reprise du travail et il y en a des choses à dire. Quel sera votre choix? Continuer de donner exclusivement votre lait? Mettre en place un allaitement mixte? Tout arrêter et sevrer votre bébé? Quel contenant choisir pour mon bébé? De quel matériel est-ce que j'ai besoin? Je dois me préparer et préparer mon bébé en avance, avant la reprise du travail? Quels sont mes droits? Catherine répond aux 1000 questions que vous pouvez vous poser à l'approche de cette étape si importante, se séparer de son bébé, le confier, faire confiance, mais assurer une continuité. On sait ô combien les temps accordés aux congés parentaux en France ne vont pas dans le sens d'un allaitement serein, mais dans cet épisode, on va tenter de vous rassurer, de trouver des solutions pour que cette transition se fasse le plus en douceur possible. Je vous laisse écouter Catherine et vous allez voir, à ses côtés, tout se passe bien. Belle écoute. Bonjour Catherine, bienvenue dans Milkshaker.
Bonjour Charlotte.
Aujourd'hui, on vous retrouve avec Catherine depuis IJ4U. IJ4U, c'est le centre que j'ai créé l'année dernière avec mon associé, dans lequel Catherine et moi, on travaille, et qui est dédié à la femme et à l'enfant. Et donc, Catherine reçoit des patients et moi aussi. Alors voilà, on est très contents de vous recevoir depuis ici. Et on va vous parler de la reprise du travail quand on allaite. Quelles sont vos options? Quels sont vos droits? Comment on s'y prend? Quel matériel on utilise? Bref, on va essayer de répondre à toutes les questions possibles et imaginables que vous pouvez vous poser à ce sujet. Donc Catherine, ma première question, ce serait déjà à quoi j'ai le droit si je veux reprendre le travail et que je veux continuer d'allaiter mon bébé, que ce soit un peu, beaucoup ou passionnément. Qu'est-ce que j'ai le droit de demander à mon employeur? Alors, une maman allaitante qui reprend le travail a droit à 1 heure par jour pour tirer son lait, c'est la loi. Donc, scindée en 2 demi-heures, elle peut tirer le matin, tirer également l'après-midi. Voilà. Donc, elle n'a pas forcément un lieu spécifique qui lui est proposé pour tirer son lait. Seules les entreprises de plus de 100 salariés sont dans l'obligation d'avoir une pièce dédiée, on appelle ça une chambre d'allaitement, pour que les mamans puissent tirer leur lait.
Ok. Et alors, si mon entreprise n'a pas d'endroit comme ça, qu'elle ne peut pas me le proposer, quelles options vont s'offrir à moi si jamais je suis quand même pas hyper à l'aise à l'idée de sortir mon tire-lait en plein milieu de l'open space ?
Alors, ce que je propose aux mamans, lorsqu'on fait une préparation, au moment de la reprise du travail, c'est déjà de se renseigner, savoir s'il y a une infirmerie dans l'entreprise. Voilà. Et souvent, les mamans n'y pensent pas. Alors, l'infirmerie peut être à l'intérieur ou bien à l'extérieur de l'entreprise. Mais elles peuvent tout à fait se rendre à l'infirmerie pour tirer leur lait. Et dans ces cas-là, elles prennent contact avec l'infirmière pour voir comment organiser les choses et avec leur responsable avant la reprise du travail. Alors, ça peut être le petit restaurant qui se trouve à côté de son lieu de travail. Hein, un petit, alors en ce moment, c'est pas trop d'actualité, mais j'espère que bientôt on pourra reprendre une vie un peu normale. Et dans ces cas-là, on peut penser la petite brasserie où on déjeune le midi, demander au patron si éventuellement il n'aurait pas une petite pièce, un petit endroit, une petite réserve.
Dans le frigo.
Voilà, dans le frigo, quand même pas, juste pour la conservation
juste
du lait.
Juste pour la conservation du lait.
Pour que la maman puisse tirer son lait. Hein. Alors, il y a des mamans qui tirent dans leur voiture, hein, parfois dans un parking. C'est pas très confortable, mais c'est quand même mieux que dans les toilettes.
Ouais, c'est quand même plus sympa. Ouais, en tout cas, voilà, ça c'était le premier point qu'on voulait aborder. Vous avez des droits, vous avez le droit de demander ce temps-là et il doit vous être offert. Alors, il n'est pas forcément rémunéré, mais en tout cas, vous avez le droit de le prendre. À partir de 100 salariés, tu le disais, vous pouvez avoir accès à une salle, en fait. L'entreprise doit dédier une salle à cet effet. Ok, très bien. Alors, comment ça se passe quand les mamans viennent en consultation pour la reprise du travail ? Quelles sont les grandes questions qui se posent à elles ? Quelles sont leurs plus grandes questions, angoisses, interrogations ? Raconte-nous, puisque tu en fais beaucoup des reprises du travail.
Oui, alors la reprise du travail, c'est toujours intéressant parce que la maman se pose évidemment mille et une questions et puis il y a une grosse charge émotionnelle, c'est-à-dire qu'on reprend le travail, on va changer de rythme, on va se séparer, être séparé de son bébé, on va confier son bébé. Alors à une crèche, évidemment, crèche, assistante maternelle ou autre. Donc, la maman a beaucoup d'interrogations, mais il y a aussi le côté psychologique qui est à prendre en compte. Donc, on va essayer. Hein, moi, j'accueille évidemment la demande de la maman. On va mettre tout à plat et puis on va voir comment on peut organiser les choses. Alors, souvent, les mamans viennent en se disant « Bon, je vais peut-être sevrer parce que je reprends le travail et ce sera beaucoup plus simple pour moi. » Mais en fait, en discutant avec la maman et au fil de la consultation, on se rend compte que finalement, on n'est pas obligé de sevrer son bébé. On peut tout à fait organiser les choses de façon à pouvoir continuer et faire perdurer cet allaitement. Et ce qui est important, parce qu'un enfant qui va rentrer en collectivité, c'est un enfant qui va être exposé aux germes. Comme je dis, la crèche, c'est un bouillon de culture. Donc, quand on sait tout ce qu'apporte le lait maternel en termes d'immunité, et au-delà des 6 mois, ça peut être 2 ans, 3 ans, l'OMS dit aujourd'hui 2 ans d'allaitement avec la diversification qui vient s'imbriquer aux alentours de 6 mois. Mais c'est vrai que c'est important d'encourager les mamans à continuer l'allaitement en reprenant le travail. Alors évidemment, ce qui revient souvent, c'est la fatigue, l'organisation, le choix du tire-lait, la conservation, les quantités, le contenant, comment le lait sera donné à mon bébé et si mon bébé refuse le biberon.
Ouais, ça c'est une grande question. Et si mon bébé refuse le biberon, comment je fais? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Ouais. Alors, donc du coup, quand tu as une maman qui arrive en consultation pour une reprise du travail, les consultations, elles vont du sevrage complet finalement à maintenir un allaitement exclusif, oui. Mais pas que au sein, c'est ça. Fonction de l'âge du bébé, c'est différent aussi, j'imagine.
Oui, c'est différent parce que pour un petit, on va dire un bébé de 3, 4 mois, 6 mois, on aurait tendance à proposer le biberon, hein, de proposer le lait de la maman au biberon. Au-delà de 3, 4 mois, on peut commencer à proposer à la tasse. Alors souvent, les assistantes maternelles ou les professionnels de la petite enfance ne sont pas très à l'aise avec ça. Et puis, si l'enfant a plus de 6 mois, on se dit que l'option biberon, on peut à la limite proposer autrement, comme je te dis, avec une tasse, une petite tasse à bec. Alors, la tasse à bec, quelquefois, on évite parce que souvent, la tasse à bec, n'est pas tout à fait adaptée dans le sens où l'enfant qui boit avec une tasse à bec a tendance à avoir toujours la tête en hyper-extension, mais on a une tasse à 360 degrés. Alors ça, je propose aux mamans de regarder à quoi ça ressemble, hein, et le bébé va plutôt aspirer le lait. Bon, évidemment, il faut que l'enfant soit un petit peu plus grand. Suivant l'âge de l'enfant, on va s'adapter, et puis l'enfant peut boire le lait également au verre. Hein.
Ouais, tout à fait. Ok, alors de quoi est-ce que je vais avoir... Partons du principe que j'ai envie de reprendre le travail, mais que peu importe l'allaitement exclusif ou mixte pour l'instant, parlons juste de comment je vais m'y prendre pour tirer mon lait, etc. De quel matériel je vais avoir besoin pour faire perdurer un allaitement exclusif ou un bout d'allaitement en reprenant le travail ?
Alors, la première chose, déjà, c'est pouvoir mettre le bébé au sein quand le bébé est avec la maman, hein, c'est-à-dire le week-end, le soir, le matin, avant de partir travailler. Ça, c'est ce qui va permettre de maintenir la lactation. Ensuite, évidemment, quand on reprend le travail sur le lieu de travail, on va avoir besoin d'exprimer son lait. Donc là, c'est le choix du tire-lait. Alors, les tire-laits, on en a plusieurs, évidemment, sur le marché. Quand on reprend le travail, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus compact. Les mini-tire-laits électriques qui marchent à pile ou sur secteur, que l'on peut brancher également sur l'allume-cigare. Donc, ces tire-laits-là, on peut les acheter ou alors on peut les trouver également en location. Et là, ce que je vais proposer aux mamans, c'est de se rapprocher des pharmacies peut-être plus spécialisées en allaitement maternel. Hein, ça existe. Et puis... les prestataires qui proposent la location de tire-lait.
D'accord.
Voilà, qui seront à même de renseigner la maman. Ça, c'est, je dirais que chaque maman va décider de ce qui lui convient, en fait, le mieux. Hein, j'ai des mamans qui vont partir avec le tire-lait qu'elles avaient peut-être depuis le démarrage de l'allaitement, parce qu'elles se déplacent en voiture et que pour elles, elles trouvent que c'est plus simple et voilà, n'ont pas forcément envie de changer. Et puis des mamans qui vont préférer un petit tire-lait nomade, hein, que l'on peut mettre dans son sac à main, on peut tirer à n'importe quel endroit, c'est pratique, ça prend pas de place et voilà. Mais ça va dépendre en fait de chaque situation.
Ok, donc là, mettez-nous en commentaire vos recommandations de tire-lait, etc. Voilà, tipsez-vous les unes les autres. Il y aura forcément des noms qui ressortiront et qui ont l'air plus efficaces ou plus pratiques ou tout ce que vous voulez que les autres. Ok, donc on tire son lait. Combien de temps avant Alors, d'autres matériels en dehors du tire-lait ?
Alors oui, bien sûr, hein, les contenants.
On allait les oublier.
Les contenants, donc dans quel récipient ou contenant où on peut stocker son lait. Alors, on a des poches congélation, puisqu'on peut, on le sait, congeler le lait. Hein, soit on va garder le lait frais et on l'amènera à la crèche ou à l'assistante maternelle, soit on va congeler son lait. Alors, généralement, les mamans commencent à faire des stocks, ça dépend. Hein, une maman qui est un peu... On est toujours un peu inquiète, hein, avant la reprise du travail, et les mamans aiment bien s'organiser avant. Et quand elles viennent me voir, elles viennent un mois avant la reprise du travail, hein, c'est ce que je préconise. Et puis, on va commencer à parler de l'expression, à quel moment on peut tirer, à quel moment on peut faire des stocks. Hein, donc, généralement, on va plutôt tirer après une tétée, hein, de préférence le matin, peut-être faire deux expressions le matin. Alors ça, c'est vraiment avant la reprise du travail. Ouais,
c'est vraiment en amont,
si on veut commencer à faire des stocks. Mais puisqu'on parle des contenants, c'est l'occasion, hein. Et puis la maman va stocker ça dans des petits sacs congélation qui sont spécifiques, hein, pour le lait maternel. Alors moi, ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les plaques congélation, les bacs, pardon, de congélation spécifiques pour le lait maternel, où là, on va pouvoir faire des petits bâtonnets de 30 ml. Et ça, c'est drôlement
comme
pratique.
Des glaces.
Comme des glaces, voilà. Des bâtonnets un peu longs que l'on peut glisser facilement dans un biberon. Alors, il existe différentes marques. Hein, il faut regarder. Là encore, peut-être que les mamans pourront donner leur marque. Moi, personnellement, voilà, je laisse la maman choisir encore une fois ce qui lui convient.
Ça s'appelle des bacs.
Des bacs à congélation hein,
pour le lait maternel. Très bien.
Voilà. Et en fait, la maman pourra stocker, une fois que les glaçons sont formés, elle peut retirer facilement les glaçons du bac, les stocker dans un sac congélation classique.
Hyper pratique.
Hyper pratique.
Comme la purée chez Picard, quoi.
Exactement. Okay. Voilà.
Pardon, j'ai donné une marque.
Ouais, Picard. Et puis, on va surtout dater, hein, bien marquer, mettre une petite étiquette sur le sac congélation en notant la date et l'heure.
Hein. Ok. On reviendra après sur les temps de conservation du lait, etc.
Oui.
On y repensera. Donc là, on a le tire-lait, on a les sacs congélation, les bacs de congélation. Il va falloir le contenant dans lequel le bébé va prendre son lait, biberon... On a dit quoi d'autre ? Tasse 360, fonction de l'âge.
En fonction de l'âge. Alors, ça peut être aussi le doigt paille, hein, un dalle au doigt quand le bébé vraiment refuse le biberon.
Ouais, souvenez-vous, le dalle, vous savez, c'est ce petit tuyau qu'on fait glisser. Bah, ça peut être le long du sein de la maman pour que le bébé reste au sein en même temps au départ quand il faut les compléter. Ça peut être le long du doigt de quelqu'un aussi. Et donc, ça permet que le bébé ait un mécanisme de succion à peu près correct et que du coup, le lait vienne en même temps puisqu'il l'aspire le long du petit tuyau. Mmh. Biberon, dalle, tasse.
Alors, pour le biberon, on sera quand même assez vigilant, puisqu'on parle souvent de la confusion synthétine. Hein, et c'est souvent la question des mamans de se dire, oui, mais alors, si je lui donne le biberon, comment ça va se passer après ? Est-ce que, le bébé ne va pas être frustré au sein ? Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la confusion synthétine... normalement, ça n'existe pas. Hein, ce qui existe, c'est vraiment un débit qui est beaucoup plus rapide au biberon. Donc, il y a une façon de donner le biberon au bébé. Il y a de nouvelles recommandations où on parle de donner le biberon en position horizontale, moitié lait, moitié air dans la tétine. Mmh. Les mamans, d'ailleurs, peuvent regarder sur le site de la Leche League, biberon donné à l'horizontale.
Ouais.
Et là, elles auront tout un petit topo là-dessus.
Tout à fait. Je repense à Ergo Mums aussi.
Voilà,
Marie,
exactement.
Qui a fait
Ergo Mums.
Une vidéo là-dessus, il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui, tout à fait.
Comment donner le biberon. Donc, j'essaierai de penser à vous les remettre, à vous les repartager en story à ce moment-là.
Voilà.
Pour que vous les ayez.
Et en tenant le bébé plutôt assis, hein, le menton un peu relevé et le biberon, la tétine du biberon, donc en position horizontale, moitié lait, moitié air dans la tétine, puisque c'est le bébé qui va gérer le débit. On n'enfonce pas la tétine dans la bouche du bébé. On stimule les points cardinaux autour de la bouche et on attend que le bébé vienne chercher avec sa langue comme il ferait au sein. Et ça, c'est ce qui va préserver le mécanisme de succion. Et on va choisir également une tétine un peu longue et une tétine ronde. Voilà, hein, pour rester vraiment dans la physiologie. Hein. On va éviter les tétines courtes et plates.
Voilà, on évite les tétines courtes et plates. On va sur les tétines avec des cols plutôt étroits et des tétines longues. Ça, c'est, souvent, c'est ça que vous pouvez voir sur le packaging des biberons. Cols étroits, et on en trouve plus tant que ça. C'est pas facile à trouver parce qu'il y a une période où tous les fabricants de biberons se sont mis à faire des cols larges qui, soi-disant, ressemblent plus au sein. Mais en vérité, le sein, quand il est dans la bouche de votre bébé, il s'allonge, en fait, il va loin, profond dans la bouche de votre bébé. Donc, en fait, c'est des tétines qui sont avec un col étroit et qui sont longues, qui vont aller reproduire le mieux la façon dont le sein se positionne dans la bouche de votre bébé. Et petit tips, c'est finalement les marques les moins chères qui en font. Et là, on va en donner 2-3. On va donner Carrefour, on va donner Intermarché, je crois. On fait aussi des très bien. Il y a une petite marque qui s'appelle Diffrax aussi, qui a une gamme de col étroit. Et ça permet de déjà partir sur une meilleure base.
Oui, tout à fait. Charlotte, et alors je voulais juste terminer avec le temps, hein. C'est-à-dire que quand on donne un biberon, souvent ça va très vite, hein. Et c'est pour cette raison-là que l'on va incliner le biberon également à l'horizontale. Il faut savoir que la satiété arrive au bout de 20 minutes, donc un bébé qui boit trop vite n'arrive jamais à satiété. Et ça, c'est important de le souligner, parce que bon nombre de mamans que je vois parfois en consultation, après justement la consultation reprise du travail, m'appellent en me disant, écoutez, voilà, je suis ennuyée.
Il a bouffé tous mes stocks.
Voilà, c'est ça. La nounou me demande de lui laisser, je vous dis n'importe quoi, 400 ml pour la journée, sur une journée de 8 heures, parce que mon bébé, visiblement, a toujours faim. Et c'est justement, on en parlera tout à l'heure, d'accueillir l'enfant à l'été, mais d'accueillir également ses rythmes, hein, puisque le bébé à l'été a des rythmes différents. Il mange plus souvent, mais de plus petites quantités.
Ok. Donc, dans les grandes lignes, eh bien, on fait attention à la position. On oublie cette position qu'on a tous dans notre imaginaire du bébé qui est allongé à l'horizontale dans vos bras et du biberon qui, lui, est à moitié vertical et qui tombe dans la bouche de bébé avec que du lait dedans. Et on essaie de plutôt asseoir bébé. C'est bébé qui se retrouve à la verticale avec la tête un tout petit peu défléchie, donc un tout petit peu d'extension finalement de tête pour qu'il puisse correctement ouvrir sa bouche. Et le biberon qui vient à l'horizontale, et c'est vraiment bébé qui va aller chercher le lait et non pas le lait qui va venir tomber dans sa bouche. Voilà, si à l'oral, on peut faire une description, je pense que ça, ce sera le plus clair. Et puis, on essaiera de faire un petit schéma ou quelque chose en même temps.
Alors, Charlotte, je vais quand même insister sur cette tétine. Ouais. Lorsqu'on parle de confusion syntétine, alors il y a le problème du débit. Hein, c'est-à-dire que le bébé va s'habituer plutôt à un débit plus rapide si le biberon n'est pas donné correctement. Mm-mm. C'est-à-dire ce bébé allongé sur l'avant-bras, comme on l'a toujours vu, avec une tétine remplie de lait. Faut savoir que si vous retournez le biberon et vous laissez couler le lait coule tout seul. Et pour peu que le bébé comprime, eh bien, ça coule encore plus vite. Pardon. Et moi, plus vite. Donc, moi, c'est ce que j'appelle l'instinct de survie. C'est-à-dire que vous êtes dans un fauteuil incliné, on vous donne une bouteille d'eau ou carrément allongé. Si vous ne déglutissez pas, vous vous étouffez. Ouais. Donc, le qu'on entend très souvent quand un bébé boit très vite, ben c'est un bébé qui se remplit l'estomac. Souvent, ça fait effet yo-yo, ça monte, ça descend. Et là, on a des bébés voilà, qui régurgitent et ça va engendrer d'autres problèmes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, et notamment à ces histoires aussi de troubles de la succion. Un bébé, par exemple, qui a un frein restrictif ou une hypersensibilité dans la bouche ou autre, ben c'est sûr que parfois, faudra faire très attention à la tétine que l'on propose, hein, et éviter encore une fois ces tétines courtes et plates.
Ok. Très bien. Avant qu'on passe à la suite, est-ce qu'on peut faire le petit rappel sur combien de temps je peux conserver mon lait ? Je tire mon lait, combien de temps est-ce que je peux le garder à l'air libre ? Combien de temps est-ce que je peux le garder au frigo ? Combien de temps est-ce que je peux le garder au congélateur ? Une fois que je le sors du frigo ou du congélateur, combien de temps je peux le garder ? Voilà, on fait les allers-retours.
Alors, effectivement, la conservation, on a deux types, en fait, hein, de recommandations. On a les recommandations officielles françaises, où là, on va dire 4 heures à température ambiante, 48 heures dans le frigo, alors pas dans la porte du frigo, mais en bas du frigo et bien au milieu, et 4 à 6 mois dans le congélateur. Des recommandations un peu plus larges, hein, qui sont également fiables, internationales, là on serait plus entre 6 et 8 heures à température ambiante, 6 à 8 jours dans le réfrigérateur et 6 à 12 mois dans le congélateur.
Ouais, donc c'est un peu large, quoi. Voilà. Du coup, enfin, vous inquiétez pas si vous avez dépassé de quelques minutes, oui, heures les premières recommandations. A priori, il y a pas de
non,
il y a pas de souci.
Il n'y a pas de risque de... Moi, j'ai toujours que... Bon, il est quand même... Alors, mis à part pour le lait congelé, décongelé, où là, on fait très attention. Hein, on le laisse décongeler dans le réfrigérateur. On a 24 heures pour le consommer. Et une fois qu'il est réchauffé, le bébé a une heure pour le consommer. Hein.
D'accord. Donc, le lait sorti du congélateur, là, tu disais.
Sorti du congélateur et réchauffé. Hein, c'est okay. Une heure. Hein.
Très bien. Mais 24 heures pour le réchauffer, en fait.
Oui.
OK. Le lait qui sort du frigo, qu'on a mis au frigo pendant, par exemple, 2 jours et qu'on fait chauffer pour son bébé, est-ce qu'on peut le remettre au frigo s'il ne boit pas son biberon ?
Oui, alors on peut le remettre pour le lait frais uniquement. On peut le remettre au frigo, le réchauffer une deuxième fois.
D'accord.
Voilà, mais deux fois.
Deux maximum réchauffages, sur un, oui, biberon, enfin sur, oui, un lait qui n'a pas été
sur
mis au congélateur.
Frais. Oui.
Que du lait au frigidaire.
Oui.
Ok. Est-ce qu'on oublie quelque chose ? Non, je pense pas. 6-8 heures. Oui, voilà, deux réchauffages. Non, je pense que c'est bien, on a tout dit. On essaiera de refaire un petit schéma pour ça.
Par contre, pour le lait, ah, si, ça c'est important. Pour le lait décongelé que l'on va garder, on sort du frigo, sans qu'il soit réchauffé, on peut le garder 4 heures à température ambiante.
D'accord. Si jamais on décide de ne pas le mettre au frigo, qu'on veut qu'il décongèle un peu plus vite, c'est 4 heures.
4 heures.
Ok. Ok, je pense que ça, on est bien. Alors, combien de temps avant je dois m'y prendre si, par exemple, je reprends le travail un 1er janvier, comment je dois m'organiser pour être à temps au travail avec mon tire-lait, mon bébé qui prend le biberon ou un autre contenant c'est quoi le timing?
Alors, le timing, comme je disais, c'est... il n'y a pas réellement de timing. On se prépare, évidemment, parce qu'il y a toute une logistique, une organisation, ce qu'on disait à l'instant, hein, quel tire-lait, quel contenant, etc. Après, la maman peut tout à fait, n'est pas obligée de faire des stocks de lait. Hein, c'est-à-dire qu'elle peut allaiter jusqu'à la veille de, voilà, de l'entrée à la crèche ou chez la nounou, et puis commencer à tirer sur son lieu de travail. C'est vrai que c'est toujours plus rassurant pour la maman d'exprimer son lait avant. Donc, généralement, on va dire que c'est 3 semaines, 1 mois avant, où on va commencer vraiment à organiser les choses. Déjà, alors, l'histoire du biberon ou de la tasse, de savoir si son bébé va prendre le lait autrement qu'au sein, ça, c'est l'inquiétude de beaucoup de mamans. Hein. Mmh. Et puis, alors, il faut quand même le dire, souvent, même à la maternité, quand la maman vient d'accoucher, on entend écoutez, moi j'aimerais bien donner un petit biberon parce que je vais reprendre le travail dans 2 mois et demi et je veux vraiment que mon bébé commence à s'habituer à prendre le biberon. Ouais. Alors, ça, évidemment, on va rassurer la maman, on va lui expliquer, il n'y a vraiment pas d'urgence. Et souvent, ce que je dis, c'est pas très sympa pour les professionnels, mais je dis à la maman, c'est pas votre problème. C'est-à-dire que si le bébé refuse le biberon, évidemment que ça va inquiéter la maman. Mais en même temps, la professionnelle, elle sait quoi faire. Elle sait qu'un enfant peut refuser de s'alimenter pendant ce temps d'absence. Et donc, c'est elle qui va trouver des stratégies. Déjà, pour rassurer les parents, quand le soir, la maman vient récupérer son bébé, c'est sûr que si la professionnelle lui dit « Bah écoutez, on est inquiet, il n'a rien mangé, ça ne va pas du tout. La pauvre maman, déjà pour elle, ça a été compliqué. Elle arrive le soir, elle a déjà cette grosse charge émotionnelle. Elle retrouve son bébé, elle n'a qu'une envie, c'est de se dire que son bébé a mangé dans la journée. Si la professionnelle lui renvoie des choses très négatives, c'est vrai que ça va être compliqué pour la maman. Donc, il y a vraiment, j'ai envie de dire, une collaboration entre, on va l'appeler la gardienne, hein, la personne qui va garder le bébé, la professionnelle, que ce soit l'auxiliaire de périculture en crèche, que ce soit la nounou, pour essayer déjà d'en discuter. Et puis ça, on va le voir au moment de l'adaptation, hein, comment les choses vont s'imbriquer et comment ça va se passer. Donc la maman va avoir un rôle aussi important, et c'est pour ça aussi que c'est super de pouvoir se préparer avant, c'est d'avoir des petits outils pour trouver une organisation, okay. Voilà, avec l'assistante maternelle ou l'auxiliaire de périculture. Okay. Et puis, ce qui va être important, c'est d'évoquer aussi comment fonctionne cet enfant. Hein. Si c'est un bébé qui est habitué, qui a 4 mois et qui tète 12 fois par 24 heures, ça, il va falloir l'expliquer à la professionnelle. Hein. C'est que ce bébé, il ne va pas être calé sur des heures. Mmh. Hein. C'est-à-dire qu'il ne va pas téter à 11 heures, à 15 heures... et à 17h.
Oui, ok, ouais. Donc de l'importance que le professionnel en fait ait connaissance des rythmes de ce bébé à l'été, parce qu'en plus il est différent d'un bébé à l'autre. Mmh. Alors en amont, je crois que c'est un point important que tu voulais aborder, c'est la confiance qu'on peut porter au professionnel qu'on a en face. Mmh.
La confiance, il faut faire confiance à la personne qui va garder votre enfant. Et je sais ô combien c'est compliqué, parce que les modes de garde, c'est compliqué. Hein, faut trouver, on est déjà à la maternité, qu'on pense au mode de garde en se disant, mais voilà, est-ce qu'on va avoir une place en crèche? Est-ce qu'on aura une place chez l'assistante maternelle? Et puis, est-ce que ça va bien se passer? Alors, lorsqu'on confie un bébé à la crèche, on se dit que ce sont des professionnels, qu'elles sont formées. Ça rassure souvent les parents. L'assistante maternelle, c'est une personne qui travaille seule, qui se retrouve avec 2-3 bébés. Après, c'est en recrutement. C'est-à-dire que vous allez la choisir, vous allez lui dire ce que vous attendez d'elle, vous allez voir un petit peu comment elle fonctionne. On va essayer d'instaurer un climat de confiance mutuelle. Ouais. Voilà, c'est ça qui est important.
Vous faites il faut que vous fassiez une équipe.
Exactement. Mmh. Hein, c'est important, vraiment. Okay.
C'est à ce prix-là aussi qu'elle pourra comprendre les rythmes de votre bébé. Il faut qu'elle sente que vous pouvez lui faire confiance ou qu'il peut vous faire confiance. Ouais. Et inversement.
Oui.
Ok, très bien. Donc, on a dit qu'on s'y prenait finalement à l'avance, mais pas trop. Voilà, il y a nécessité en effet de se rassurer. Mais alors, est-ce que du coup, c'est utile de préparer son bébé au biberon plusieurs semaines avant ?
Alors, le risque, c'est aussi une perte de confiance pour la maman et une part de culpabilité. C'est-à-dire, la maman qui reprend, je dis n'importe quoi, mais lorsque son bébé a 6 mois et l'enfant refuse le bib, hein, donc avant l'entrée en crèche ou chez l'assistante maternelle, la maman va se dire « Ah bah voilà, c'est parce que j'aurais dû le proposer avant, maintenant il veut plus, c'est compliqué. » Et puis on a toujours l'expérience des copines, de la famille, de personnes qui ont eu ces difficultés-là. Alors moi j'ai envie de faire passer un message à toutes les mamans, c'est qu'en fait chaque enfant est différent. Les bébés ne sont pas clonés. Donc, celui de la copine, de la voisine, il fonctionne différemment du vôtre. Et là encore, il faut instaurer un climat de confiance avec son bébé. Hein, faire confiance à son bébé, se dire qu'il va y arriver, il n'y a pas de raison. Et le bébé va faire la part des choses. Hein, c'est-à-dire que quand il sera avec la nounou, eh bien, ou avec l'auxiliaire en crèche, bah, il prendra le lait de sa maman autrement. Mais c'est une adaptation, il faut du temps. Hein, ce n'est pas évident pour le bébé, hein, c'est-à-dire du sein de sa maman avec le lien vraiment fusionnel qu'il a, l'odeur de sa maman, les bras de sa maman, il se retrouve dans les bras de, entre guillemets, d'une étrangère et il sait pas, il la connaît pas, il faut faire connaissance, voilà, et il faut s'approprier aussi ce nouvel objet, hein, qui va l'aider à se nourrir pendant le temps de garde. Donc moi je dis que les bébés savent et il faut leur laisser du temps. Donc essayez de donner un biberon avant l'entrée en crèche. Quand je vois que la maman, c'est important pour la maman, je lui dis ok. Alors dans ces cas-là, on peut essayer, mais c'est pas vous qui allez donner le biberon, c'est le papa. Ça peut être le papa, ça peut être la belle-mère, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de confiance en tous les cas. Okay. Hein. Et puis on va y aller doucement. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de donner le biberon quand l'enfant est affamé, parce que là il va pas comprendre. Hein. Il va se dire c'est quoi ce truc en silicone qui vient dans ma bouche. Voilà, il va chercher évidemment le sein de sa maman, mais ça c'est normal. Donc on va privilégier des moments où l'enfant est calme, on va proposer des petites quantités, on va proposer, alors là je parle pour la maman qui reste sur un allaitement exclusif, hein, parce que ça on n'en a pas encore discuté, hein, des mamans qui souhaitent faire du mixte, mais on en parlera plus tard. Donc là on est vraiment sur un allaitement exclusif, hein, que le lait soit donné au sein ou au biberon, ça reste un allaitement exclusif tant que c'est du lait de maman, bien évidemment. Hein. Donc voilà, donc on va habituer progressivement l'enfant à cette tétine, et si vraiment il refuse, on peut proposer dans un premier temps avec un doigt paille, hein, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure Charlotte, c'est un DAL, un dispositif d'aide à l'allaitement, où l'enfant va téter avec une sonde posée sur le doigt, va aspirer le lait, mais il y a la sensation, cette sensation de peau qui sera peut-être beaucoup plus rassurant pour lui que cette tétine en silicone. Alors la tétine, on peut la chauffer, on peut la refroidir aussi. Okay. On peut laisser l'enfant jouer avec la tétine, alors suivant l'âge. Hein,
oui, c'est ce que j'allais te demander. Parfois, on voit des conseils comme ça de laisser le biberon finalement au bébé, vide, pour qu'il appréhende cet objet. Ça peut être intéressant.
Pour qu'il se familiarise en fait avec l'objet. Il va jouer avec... Il faut que ça reste ludique. Ouais. C'est ça qui est important. Hein. Et se dire qu'à un moment donné... Même si le bébé refuse, et souvent les bébés ne sont pas contents, hein, ils sont frustrés, hein, mais il faut leur faire confiance. Et puis le bébé va se rattraper, hein, c'est-à-dire que quand la maman va rentrer du travail, le bébé risque de téter un petit peu plus. Et là aussi, il faut préparer la maman. Parce que ce qui revient souvent est l'appréhension des mamans.
Ah oui, alors il y a le biberon, il y a la fatigue. Crevée,
Hein, comment je vais gérer cette fatigue? Et si tête la nuit, comment je vais dormir? Et c'est vrai que ça, c'est une vraie question. Hein. Ouais. Comment organiser les choses pour que ça se passe au mieux? Donc moi, je dis toujours, il y a un temps d'adaptation.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Qui est à peu près de 3 semaines, 1 mois.
D'accord.
C'est le temps de réorganiser les choses. Et encore une fois, c'est pour toutes ces raisons, il est important d'être accompagné, hein, de voir une consultante en lactation, d'en discuter avec elle. Alors, généralement, c'est une consultation d'une heure, hein, on n'a pas besoin de faire plus. Mais voilà, on va reprendre tout, vraiment tout reprendre avec la maman, essayer de, voilà, de voir ce qu'elle a envie de faire, hein, comment elle travaille, son temps d'absence, si elle travaille, parce qu'il y a des mamans, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans en télétravail. Alors ça, c'est chouette pour pouvoir tirer son lait.
Ouais, ça, c'est l'aspect cool du
Covid,
c'est
génial.
C'est le télétravail.
Mais oui, on est à la maison, c'est facile. Hein. Alors, les mamans, on parlait tout à l'heure des accessoires, on a aussi la méthode Morton, hein, avec, alors je ne sais pas si tu
connais,
Charlotte.
Qu'est-ce que c'est que la méthode Morton, hein.
C'est ce bandeau qui permet de maintenir les tétrailles
bien
du tire-lait.
Bien sûr, ce bandeau tellement sexy là, dans lequel on peut glisser
oui,
les tétrailles.
Les tétrailles du tire-lait. Ou alors un vieux soutien-gorge, hein, c'est ce que je dis aux mamans, hein, d'aller pas acheter un bandeau qui coûte 50, 60 euros. Bon, ça c'est pour le côté funny, il y en a très beau hein, d'ailleurs. Hein. Mais en termes de maintien, c'est peut-être mieux. Mais sinon, un vieux soutien-gorge, on a tout ça dans nos armoires. On fait 2 trous dans le soutien-gorge et là, on va pouvoir fixer les tétrailles. Ce qui fait que même si vous avez des mails envoyé, alors évidemment on va éviter les visios, mais vous pouvez très bien pendant 15 minutes, hein, on tire son lait pendant 15 minutes, envoyer des mails et comme ça on fait autre chose en même temps, hein, y a pas de perte de temps, mais on perd jamais du temps lorsqu'on tire son lait pour son bébé. Hein. Par rapport à la fatigue, ça c'est quelque chose que l'on évoque en consultation reprise du travail. J'explique à la maman qu'elle peut être fatiguée et si elle est fatiguée, on peut avoir une baisse de lait. D'où l'importance de mettre son bébé au sein, hein, très régulièrement, le week-end, le soir, le matin. Hein. Alors, on en parlera, comment s'organiser, c'est du cas par cas. Hein. C'est-à-dire que pour une maman qui va travailler, par exemple, du lundi au vendredi, qui part de la maison à 8h et qui récupère son bébé à 18h, elle mettra peut-être son réveil avant. Alors, tout dépend, c'est pareil, chaque bébé a un fonctionnement différent. Hein. C'est un bébé allaité, hein. Mais quand une maman me dit, bah, habituellement, il tète vers 6 heures. Bon, bah, elle va faire lui donner le sein à 6 heures. Et ensuite, elle peut-être à la crèche, parce que certaines crèches acceptent, ou chez l'assistante maternelle, juste avant de partir, redonner une petite tétée. Hein. Et puis, elle va retirer 1 ou 2 fois dans la journée. Hein. Voilà. Et puis, évidemment, le soir, bah, c'est de l'open bar. Et la nuit, c'est la même chose. Hein. Le bébé risque de téter un peu plus la nuit. Bon, à un moment donné, ça va peut-être se caler. Hein. Alors, un bébé allaité tète la nuit, hein, et parfois pendant des mois, voire les premières années. Et ça, j'ai envie de dire que c'est normal. Hein. Oui. C'est la nuit que l'on produit le plus de lait. C'est ce qui permet aussi d'entretenir la lactation. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est important. Voilà. Hein, voilà. Mais on peut avoir, avec la fatigue, parfois une petite baisse de lait. D'où ces mamans qui posent la question en disant « Mais est-ce que, par exemple, je peux donner une tétée le matin, le soir, et est-ce que j'ai besoin forcément de tirer dans la journée ?» Alors, le risque pour la maman, c'est l'engorgement. Hein, c'est-à-dire que si la maman ne tire pas son lait de la journée, d'abord, elle risque d'être à un moment donné très inconfortable. Et puis, c'est surtout que si elle ne tire pas son lait, bah, y a une réponse hormonale qui ne se fait pas et on risque d'avoir une baisse de lait et un risque sévère d'engorgement. Donc, il faut que la maman soit à l'écoute de son corps.
Hein. Oui, c'est ça. C'est possible. Il y en a
exactement.
Qui le font. Mais, et soyez à l'écoute de votre corps et de vos seins.
Exactement.
Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que du coup ça génère pas une trop grosse baisse de lactation dans votre cas? Et c'est toujours pareil, les lactations, mais les bébés sont différents et puis les lactations sont différentes. Et puis il y a des moments qui vont très bien tenir toute la journée et ça va s'entretenir et puis d'autres moins. Donc là c'est vraiment du cas par cas et de l'importance de se faire accompagner.
Les mamans qui souhaitent donner le sein matin et soir et le reste du temps, le bébé reçoit autre chose. C'est vrai que jusqu'à l'âge d'un an, on va quand même demander à la maman de tirer un petit peu dans la journée. Et auquel cas, on a parlé tout à l'heure des tire-laits, mais moi, je conseille à toutes les mamans d'acheter un petit tire-lait manuel. Parce que le tire-lait manuel ne fait pas de bruit, il est simple à utiliser, il est compact, on le met dans un sac. Si vraiment on ne peut pas tirer son lait pendant 15-20 minutes, eh bien on peut très bien aller avec son tire-lait aux toilettes, tirer un petit peu sur chaque sein pour vider un peu les seins, et faire ça plusieurs fois dans la journée, ce qui va permettre au moins d'éviter les engorgements et d'entretenir la lactation.
Se soulager et entretenir, et si on ne peut pas le conserver, ce lait, c'est toujours un peu triste de le jeter. Ou vous le gardez dans un coin et vous le ramenez à la maison, vous le mettez dans le bain du bébé le soir, ça lui fait une eau toute douce.
Ouais. Et puis on n'a pas parlé du sac de transport. C'est la question qui revient souvent, évidemment. On peut utiliser un sac isotherme ou une petite glacière en mettant un ou deux blocs de glace et on peut garder le lait comme ça pendant 24 heures.
À 24 heures dans la glacière,
Lait frais. Sans aucun problème, avec deux blocs de glace. Donc même si vous ne disposez pas du frigo qui est dédié au personnel parce qu'on n'a pas forcément envie, parce que ça va dégoûter tel et tel collègue parce qu'on n'a pas envie de le mélanger avec le reste. Je dis ça, Charlotte, parce que je l'entends souvent.
Dans
ces cas-là, on le garde au pied de son bureau, dans son petit sac isotherme ou sa petite glacière, et ça ira très bien comme ça.
Et on est vraiment large sur le timing. La glacière avec des pains de glace de temps le matin, ça va largement tenir jusqu'au soir. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Ok. Revenons quand même sur cette question qui inquiète tant les mamans. Qu'elles aient préparé le terrain des semaines en amont ou qu'elles ne l'aient pas fait, bébé décide de refuser catégoriquement de prendre le lait de maman ou tout autre lait d'ailleurs, autrement qu'au sein. Qu'est-ce que ça engendre finalement? En quoi est-ce un problème ou pas un problème? Alors là, on va revenir au fait que c'est individuellement qu'on considère ça comme un problème ou non, et que c'est un peu à vous de juger si c'est un problème pour vous, parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez juger ça. Mais qu'est-ce que ça implique en termes de lactation, etc., pour le bébé? Comment je peux m'en sortir si je souhaite continuer d'allaiter exclusivement, que je tire mon lait la journée et que mon bébé, il n'en veut pas? Comment j'avance comme ça? Au bout de combien de temps ça va se décanter
Alors, généralement, mais c'est généralement, parfois ça peut durer une dizaine de jours. Parfois plus, mais c'est rare.
D'accord.
Donc, on va être dans le... On va essayer de rassurer le bébé. Et je trouve que c'est... Encore une fois, c'est important de soulever ce questionnement qui prend la tête de beaucoup de mamans, qui les inquiète. Et pour cause, c'est normal. C'est qu'on aurait tendance, au moment de la reprise du travail, à prendre un peu de distance, parfois, avec son bébé. C'est-à-dire essayer de le confier un peu plus pour dire, source... n'est pas proche, et donc ça va lui permettre de prendre le lait autrement et de s'adapter à une autre personne, à un autre contenant, à un autre rythme. J'ai envie de dire que c'est tout le contraire. Le bébé a besoin de réassurance, il sent que quelque chose se prépare, tout comme la maman. C'est pour ça que ce que je disais, Charlotte, tout au début là, du podcast, c'est qu'on va travailler vraiment sur l'émotionnel. Essayer de rassurer la maman, essayer de voir ce qui va lui convenir. Est-ce que vous, ça vous rassure de tirer votre lait avant? Est-ce que ça vous rassure que votre bébé prenne un biberon avant la reprise du travail? Et s'il ne le prend pas, comment ça va se passer? En parler avec le professionnel. Et souvent, ça va être presque le rôle de la maman, entre guillemets, de dire au professionnel: ne vous inquiétez pas, peut-être qu'il va refuser, mais je sais qu'il finira par prendre. Et en fait, on va peut-être inverser les rôles. C'est pour ça que la collaboration est importante, et faire confiance aux professionnels en disant: peut-être que ça sera difficile, mais voilà comment mon bébé fonctionne. Peut-être qu'en lui donnant comme ça, comme ceci, en position allaitement, debout, en marchant, en le berçant, ça va fonctionner. Quand le bébé est à moitié endormi, vraiment essayer beaucoup de contenance, beaucoup de portage avant la reprise du travail. Hein, et ne pas essayer de prendre de la distance. Parce que le bébé va le sentir.
Il va s'accrocher. Comme une moule.
Et il va encore plus refuser, peut-être. Mmh. Mais peut-être pas. Hein. Mais bon, ça fait 11 ans que je suis consultante et je crois que ça m'est peut-être jamais arrivé d'avoir une maman qui m'appelle en me disant peut-être une fois, Catherine, ça ne fonctionne pas. Alors oui, il y a des ratés au démarrage. Mmh. Il a pris 30 avec son papa, mais derrière, il ne veut plus. Et puis petit à petit, hop, je reçois des petits messages en me disant, moi je n'ai rien fait, hein, c'est la maman qui fait. Hein. Mais c'est juste la rassurer. 30, mais c'est génial, c'est trop bien.
Ben oui.
Mais oui, mais
il
bien
a pris,
sûr.
C'est possible.
Et la maman, elle entend ça. Elle se dit 30, c'est bien. Et puis un bébé ne se laisse jamais mourir de faim. Et à un moment donné, le bébé va faire la différence. Il n'est pas idiot, le bébé. Hein. Mmh. Il faut qu'il s'adapte. Hein. Donc, faites-lui confiance. Même s'il refuse, il finira par prendre. Et peu importe. Comme je dis, ça peut être... Alors, évidemment, à la crèche, on ne va pas lui donner aux dalles. Hein. Ça m'étonnerait. Parce que d'abord, il y a une question d'hygiène. C'est trop contraignant. Et ça, ce ne sera pas possible. Mmh. Mais peut-être changer aussi de tétine de biberon. Hein, parce que même si les tétines sont rondes, sont longues, bah, quelquefois, voilà. Tétine en caoutchouc naturel, quelquefois, ça marche bien. Parce qu'elles sont plus douces. Elles sont... Voilà, pour certains bébés qui ont vraiment une hypersensibilité dans la bouche ou autre, ça peut être...
Ouais.
Ça,
privilégier ça, le souple.
Le souple, vraiment, ça peut aider. Alors, quand une maman reprend le travail, on peut le suggérer, si c'est possible, évidemment, pour elle, hein, par rapport à son organisation avec son employeur, c'est de reprendre plutôt en milieu de semaine. Par exemple, le mercredi hein, ou le jeudi. Hein, comme ça, elle a 2 jours de travail. Elle a le week-end pour se retrouver avec son bébé. Et ce sera peut-être plus facile aussi et pour la maman et pour le bébé.
Ça fait une transition un peu plus en douceur, oui.
Exactement.
Ok, très bien. Ok, Catherine, on a, je pense, pas mal évoqué la partie « je veux maintenir un allaitement mixte, un allaitement exclusif, pardon, et comment je m'y prends ». Désormais, parlons aussi des duos maman-bébé où on veut instaurer un allaitement mixte. Donc, on va mixer les préparations commerciales pour nourrissons et le lait maternel, ou bébé va être au sein quand maman est là, mais que aux préparations commerciales pour nourrissons quand maman n'est pas là. Là, comment on s'y prend? Est-ce que ce lait, il a le même goût et que bébé va le prendre indifféremment? Ben, voilà, comment on s'y prend?
Alors, oui, alors ça, c'est un sujet aussi qui revient souvent. Hein. Je ne peux pas tirer mon lait ou je ne souhaite pas tirer mon lait. Qu'est-ce que je peux donner à mon bébé? Alors, avant 6 mois et même jusqu'à 1 an, de toute façon, hein, c'est le lait qui couvre les besoins de l'enfant, hein, que ce soit avec la diversification en parallèle, mais que ce soit du lait maternel ou du lait d'ailleurs artificiel. Je voudrais quand même revenir, Charlotte, parce que nous n'en avons pas parlé, c'est sur la quantité de lait maternel.
Ah, oui, bah oui.
C'est important. Alors... Mais puisque l'on parle du lait artificiel, eh bien, voilà, la grande question, c'est qu'est-ce que je dois donner? Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le bébé allaité a plus de repas, on va dire, hein, de tétée, que le lait, le bébé nourri avec des préparations pour nourrissons. Donc, les quantités sont différentes et on part sur une base de 780 millilitres que l'on va diviser par le nombre de tétées. Voilà.
Donc, ah, par 780 millilitres sur 24 heures.
Sur 24 heures. Et ça, jusqu'à la fin de l'allaitement. Alors, même si on sait qu'au-delà de 6 mois, peut-être le bébé prend moins. Mais moi, je dis toujours aux mamans, on reste sur cette base. 780 divisé par le nombre de tétées. Donc, s'il y a 10 tétées dans la journée, eh bien, la maman va faire un biberon de 80. On va arrondir, hein, par exemple. Ça peut varier de, on va dire, entre 60 et 150. Ça dépend des besoins du bébé. Ça dépend de tout un tas de choses, mais et du rythme aussi du bébé. Hein. Donc, moi, je ne sais pas, un bébé qui tète 10 fois par 24 heures, la maman peut laisser à l'assistante maternelle, je ne sais pas, 3 biberons de 80 ou 90. Il vaut mieux d'ailleurs avoir des, mettre le lait dans des petits contenants. Mmh. C'est pour ça qu'on fait très attention avec les sacs congélation spécifiques pour lait maternel, parce que bien souvent c'est du 150 et une fois que c'est décongelé, il faut que ce soit consommé évidemment dans les 24 heures. Donc l'idée, c'est de faire plutôt des glaçons, comme on disait tout à l'heure, pour le lait congelé de lait maternel, ce qui permet à l'assistante maternelle, si elle prend le lait congelé, hein, et la crèche, c'est pareil, de pouvoir doser en fonction des besoins de l'enfant. Mais on est vraiment sur cette formule 780 divisé par le nombre de tétés.
Okay.
Voilà. Et ensuite, et donc, on va s'adapter en laissant 3-4 biberons. Il vaut mieux laisser un peu plus en petite quantité plutôt que de laisser des biberons de 150 ou 180 que le bébé ne boira pas, que l'assistante maternelle ou l'auxiliaire de périculture en crèche jettera. Et mon Dieu, on sait ô combien le lait maternel est précieux.
Tout à fait.
Hein? Donc, pour l'allaitement mixte, alors, quand on ne peut pas tirer son lait et que la maman souhaite donner autre chose que du lait maternel pendant le temps de garde, eh bien, elle va préparer des biberons ou l'assistante maternelle ou la crèche. Hein. On va se référer à ce qui est écrit sur la boîte de lait artificielle, hein, en essayant peut-être de donner un petit peu moins, mais il faut être sûr que l'enfant ait des apports. Donc, jusqu'à 6 mois, on va donner des biberons. Hein, alors soit biberon, soit la tasse, puisqu'à partir de 3-4 mois, l'enfant peut boire à la tasse. Après, je ne suis pas certaine que l'assistante maternelle ou l'auxiliaire en crèche soit à l'aise avec ça. Mais bon, on peut toujours... Ça se tente, exactement. Et au-delà de 6 mois, quelquefois, on peut remplacer un biberon par un laitage. Par exemple, au moment du goûter, hein, proposer un yaourt ou un fromage blanc ou autre. Hein. Voilà.
Okay.
Donc,
comment introduire ce lait, ces préparations pour nourrissons, commerciales pour nourrissons, dans l'alimentation de bébé quand il n'a été que au lait maternel avant ça? Donc, partons du prérequis qu'il prend des biberons, enfin que l'aspect mécanique de la prise de biberons est OK. Est-ce qu'il faut que je le prépare à ce nouveau lait en amont?
Alors, non, pas forcément. Non, on attendra que l'enfant rentre dans une structure d'accueil.
Ouais.
Et puis, on n'a pas besoin de le préparer. Il est possible qu'il refuse. Alors, quand l'enfant refuse, ce que l'on peut faire, c'est fractionner. Hein, c'est-à-dire, c'est vrai que le lait maternel n'a pas du tout le même goût que le lait artificiel. Ouais. Hein, ça, c'est clair. Hein. Si les mamans ont déjà goûté les deux, eh bien, ça n'a rien à voir. Hein. Le lait maternel est sucré. Le lait artificiel a un goût très particulier. Et il arrive que les enfants refusent de prendre le lait artificiel. Donc, on peut fractionner, faire un quart, trois quarts, et puis augmenter progressivement un demi, et trois quarts, un quart. Et l'enfant va s'habituer progressivement à cette nouvelle, on va dire, ce nouveau goût, hein,
ouais, bien
entre
sûr.
Guillemets. Hein. Mm-hmm. C'est pas, parfois pas évident, mais faut faire attention aussi au risque d'intolérance. Hein. Le lait ou d'allergie, éventuelle allergie,
ouais.
Hein, des enfants qui supportent moins bien le lait artificiel puisque c'est de la protéine de lait de vache. Donc ça, il ne faut pas hésiter à en parler éventuellement à son médecin, son pédiatre pour refaire un point sur les différents laits que l'on peut trouver sur le marché suivant la sensibilité de l'enfant.
Ok, je pense qu'on s'est dit pas mal de choses. Une des plus grandes craintes qu'on retrouve quand même, on a déjà parlé, mais à la reprise du travail, c'est la peur de manquer finalement, en fonction du rythme aussi qu'on choisit. On sait que le tire-lait, ça tire bien, mais ça tire jamais aussi bien qu'un bébé qui prend au sein. Donc la crainte des mamans, ça peut être éventuellement de manquer de lait. Est-ce qu'il y a des solutions pour ça qui peuvent accompagner la reprise du travail? En plus, tu le disais tout à l'heure, souvent c'est fatigant la reprise du travail parce que pour bébé c'est un changement de rythme et il y a comme une période d'adaptation. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider dans cette période?
Oui, alors on a également les galactogogues, hein, les plantes hein, qui peuvent aider à rebooster un petit peu la lactation. Rien ne remplacera, comme tu l'as dit, la succion du bébé hein, et puis le tire-lait en parallèle. Mais parfois, on peut proposer aux mamans de prendre, par exemple, du fenugrec, qui est un concentré de fenouil, du galactogil, du chardon-marie, charbon-béni. Voilà, tout un tas de plantes qui peuvent aider hein, en parallèle. Alors, ça ne remplacera pas, encore une fois, hein, la succion du bébé, mais au moment de la reprise du travail, et ça peut être voilà, très ponctuel, hein, c'est-à-dire les 15 premiers jours. Il est bien évident que si la maman déborde de lait, on ne va pas lui proposer de prendre des galactogogues. Mais voilà, si elle a une petite baisse de lait, bah, parfois ça peut aider parce que quand un bébé se noie un peu ouais. avec un flux de lait trop important, on ne va certainement pas lui proposer des galactogogues. Non. Et voilà, mais bon. Alors, juste pour terminer.
Allez,
Charlotte, j'aimerais bien parler d'un petit guide qui a été écrit. En fait, c'est un mémo qui a été écrit par une assistante maternelle qui est consultante en lactation IBCLC, qui est dans la région de Tarbes, Marie-Claire Bounour, qui est animatrice Lecce League, et qui a écrit un petit guide à destination des assistantes maternelles.
Ah, super.
Et qui reprend un peu tout ce que l'on vient de voir. C'est un petit livret illustré qui est vraiment très chouette, et moi je l'envoie à toutes les mamans que j'accompagne parce que ça reprend les quantités, la conservation du lait, la fatigue, etc. Donc il est accessible, hein. On peut le télécharger sur le site de la Lecce League. On pourra peut-être mettre le lien.
Ouais, on trouvera hein, le lien, on le remettra.
Voilà, donc merci Marie-Claire pour ce petit guide.
À donner à la personne qui va garder votre enfant.
Exactement.
Super.
Et même pour la maman, hein, voilà, pour se remémorer un petit peu l'organisation. Et puis, je pense que ça peut être rassurant. Ouais. Véronique Darmanjat, qui est également consultante en lactation à Paris, et donc qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur l'allaitement et la reprise du travail, hein, qui a sensibilisé également les entreprises. Donc, merci Véronique.
Bien sûr, elle a pas mal œuvré pour ça. Ouais,
oui, parce qu'on sait aussi, ça on ne l'a pas dit, mais qu'une maman, une maman qui allaite en reprenant le travail, c'est moins d'absentéisme au travail, hein, puisque voilà, son employeur lui donne cette opportunité qui n'est pas des moindres, et de pouvoir faire des choses pour son bébé pendant ce temps de travail, ça va l'inciter à être là beaucoup plus souvent, hein, et des bébés moins malades aussi, hein, donc moins d'appels de la crèche de l'assistante maternelle en disant voilà madame, hein, votre bébé a 38, il faut venir le récupérer. Donc on protège les bébés, on protège les entreprises.
Vous protégez votre entreprise voilà, en laissant les mères allaiter.
On lance un petit voilà.
Sème des graines.
Voilà, on sème des graines.
Et tu nous parlais de l'ouvrage aussi de Claude Didier Jean Jouveau, hein, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Qui a écrit un livre sur, alors je crois, l'allaitement.
L'allaitement et la reprise du travail.
Oui,
en fait.
Allaitement et reprise. Ou on allaiter en travaillant. Ou voilà, je ne sais pas, vous pouvez regarder. C'est vraiment un petit bouquin qui se lit très facilement, tout à fait accessible. Et puis vous, être accompagné, tout simplement. Hein, être accompagné. Alors moi, j'organise des réunions allaitement en visio, hein, un mardi sur deux. C'est vrai que je peux pas faire, je peux pas faire de l'individuel. Hein, mais les mamans, il y a vraiment des échanges entre mamans et des mamans qui ont déjà repris le travail et qui peuvent donner des tips, hein, comme ça, à d'autres mamans pour savoir comment elles se sont organisées.
Ouais, voilà, les initiatives comme ça, c'est vrai que c'est sympa, ça permet d'avoir un panel de différentes histoires et différents bébés, différentes mamans qui ont repris le travail ou pas encore, et puis voilà, de mixer les histoires entre elles, c'est toujours assez sympa comme esprit. Et puis après, sinon, bah voilà, faites-vous accompagner pour le coup individuellement, on le dit toujours, mais quand les questions s'empilent et qu'il y a trop de sources d'anxiété ou d'interrogation, c'est le moment de consulter, c'est là qu'il faut venir individuellement prendre les conseils qui vous conviennent à vous, à votre couple maman-bébé pour cette transition, parce que c'est une transition et elle est importante. Voilà, vous reprenez le travail et si c'est votre premier bébé, c'est la première fois que vous reprenez le travail en laissant, entre guillemets, un enfant à quelqu'un. Et c'est une période très sensible. Vous êtes encore dans cette période de postpartum qui est une période délicate aussi. Donc, Voilà, il faut prendre soin de vous, vous écouter, faire ce que vous vous sentez de faire, mais faites-vous accompagner pour savoir déjà quelles sont vos options. Et encore une fois, c'est toujours l'idée de Milkshaker, c'est de vous donner des clés pour faire vos choix en conscience. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura aidé. S'il génère des questions, posez-les en commentaire. Si vous avez des tips, tirelets, vibrons et tout ça, là, n'hésitez pas, balancez ça et parlez-vous entre vous, que cette communauté vous permette de vous donner des conseils. C'est là pour ça. Et voilà, Catherine, est-ce qu'on s'est tout dit ?
Eh bien, je pense que oui.
Ouais, de toute façon, si on a oublié quelque chose, vous allez nous le dire. Hein.
Oui. Alors moi, juste pour le mot de la fin, allez. J'ai envie de dire qu'allaiter et en travaillant, c'est possible. C'est bon pour la santé de l'enfant et de la maman. Donc, par les temps qui courent, je crois que il faut repenser à tout ça. Mais tout est envisageable. Voilà.
Toutes les options sont envisageables. Exactement. Du petit peu au beaucoup, un peu beaucoup passionnément, vous pouvez allaiter en travaillant. Ok, merci beaucoup Catherine.
Merci Charlotte.
À très bientôt.
À très vite.
Dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milk Letters. On se quitte encore et toujours avec Emma, la voix officielle de Milkshaker et son titre I'll Be There, qu'on ne présente plus. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart, and you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I lock myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere, and you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. Text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. I'll be there. Trust me, every time I have your back, and I know that you'll do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there. I'll be there. So I'll be there. I'll be there.